colloques. Nicole Laval-Turpin nous parle toujours de l'Antiquité. C'est une spécialiste de l'Antiquité et donc elle nous montrera comment, effectivement, des femmes ont pu être des modèles de hors-la-loi dans l'Antiquité. Et quant à Marine de Régnoncourt, elle s'intéressera plus particulièrement à ce fameux personnage Gabriel de George Sand, ouais, qui, là encore, est d'une actualité totale.
Vraiment, vraiment, très, très, très bien. Et puis, on a Uya Umezawa, qui est une Japonaise. On n'avait pas encore eu la chance d'être sollicitée par une Japonaise. Et elle, alors, elle va nous parler du roman d'Hector Malot qui s'appelle « Complice ». C'est hyper intéressant. Venez, vous verrez comment une femme peut très bien être complice, mais l'échappée belle.
On a encore un très grand habitué du colloque, Julien Alexis, qui, lui, travaille sur les séries.
Ah oui, alors là, on est en plein dans la jeunesse. Je ne sais pas, enfin, tout le monde regarde des séries. Et Julien va nous parler de Vanessa Yves et de Dolores Abernathy. Donc, c'est sûrement des séries que vous connaissez. Venez, vous allez être époustouflés parce qu'il va vraiment vous emballer et vous emmener dans ces séries.
Mmh. Et on terminera avec l'art. L'art qui peut être hors la loi. Donc, l'art traditionnel, notamment en rapport avec la danse, les danseuses traditionnelles. Monique, des danseuses traditionnelles, peu de danse traditionnelle marocaine peuvent être hors la loi.
Eh bien, il faudra venir pour voir comment les Cheikhs, qui, malgré les normes et certainement les stéréotypes qu'il fallait respecter, réussissez à être hors la loi.
Et de même, on travaillera autour donc de l'analyse des œuvres de Vali Export et de Déborah de Robertis pour voir comment les artistes féministes se positionnent dans leur rapport à la loi.
Et même, Laurence, il y a celles qui vont faire des choses bizarres devant les œuvres.
Oui.
Parce que quand même, je vous rappelle que Déborah de Robertis est capable de se mettre devant une œuvre, devant l'origine du monde, et d'écarter ses cuisses et de montrer son origine du monde à elle. Mmh. Donc, si ce n'est pas casser les lois, ça, je ne sais pas ce que c'est. Bien évidemment, il lui arrive des soucis aussi, hein, voilà. Vous vous en doutez.
Mais venez. Toujours, vous serez châtié.
Mais voilà. Mais bon, là, il faut venir et vous verrez que, franchement, vous allez en prendre plein les mirettes, vous allez en prendre plein les oreilles. Et surtout, si vous êtes curieux et curieuse, vous allez apprendre, comme le disait François, des tas de choses dans plein, plein de domaines derrière ce thème. Les femmes hors la loi, 21 et 22 septembre à la médiathèque d'Orléans. Et le 21, venez voir la pièce de théâtre de la compagnie Le Chat qui rêve, Olympe de Gouges et Robespierre, une histoire de la Révolution française. Mmh. Voilà. Et on a été très, très, très heureux et heureuses d'être avec vous pendant ce début d'après-midi. On vous souhaite une bonne après-midi.
Merci beaucoup, Monique Lemoine. Merci beaucoup, François Chadebec. Et donc, je vous dis au 28 septembre pour une nouvelle émission de Parlons Philo.
Parlons Philo. Parlons Philo, une émission de philosophie diffusée sur Radio Campus Orléans 88.3. Animé et présenté par Laurence Lacroix, montage Viviane Behrer et Julien Weiss.
Radio Campus cette année, c'est Wiz!
Je suppose que ça va embêter beaucoup de gens.
Monsieur le Président, il compte bien.
J'arrive à croire qu'elle me comprend quelquefois. Et je me comprends pas moi-même.
Du rap.
Bon, 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 bon.
Toutes les musiques des tropiques. Une heure de musique atmosphérique.
C'est sur le 88.3.
Il y en a bien assez pour faire notre bonheur pendant longtemps.
Vous comprendrez peut-être.
Et surtout, n'oubliez pas, nous pouvons être partout.
Thank you.
Fouata,
Kenzo,
Mariama,
Noah,
Nesrine,
Robespierre,
Angela,
à la jeunesse de l'UFO.
En direct du Festival d'Avignon.
Les micros.
Les micros.
Les micros.
Ils sont à qui?
Ils sont à qui?
Ils sont à qui?
Ils sont à nous. À qui, à qui, à qui? À nous, à nous, à nous. À la jeunesse et les micros.
Bonjour à toutes et tous. Bonjour à toutes et tous, bienvenue, je suis Fatoumata. C'est la toute première émission de À la jeunesse, les micros. On se retrouve aujourd'hui au cœur du cloître Saint-Louis. Nous allons recevoir plusieurs invités tout au long de l'émission. Mais avant tout, je pense que nos auditeurs et vous, dans le public, veulent en savoir un peu plus sur nous. Nous sommes un groupe âgé de 17 à 24 ans. 5 d'entre nous viennent de Seine-Saint-Denis et 6 sont d'Avignon. C'est donc nous qui allons animer cette émission. Et l'idée, c'est de donner à la jeunesse les micros. On va se retrouver pour 10 émissions, ici, au cœur du cloître Saint-Louis, en direct et en public, du mardi au samedi jusqu'au 22 juillet, et de 19h à 20h. Chaque émission a un titre et un thème. Aujourd'hui, le cœur est un muscle fragile. On va parler de vulnérabilité.
Bonjour à toutes et à tous. Merci Fatou de nous avoir présenté et d'avoir introduit le contexte. Au sommaire aujourd'hui, les invités. Alors, il y aura Julie Deliquet en première partie et Thiago Rodriguez et Caroline Gillet en deuxième partie. On écoutera aussi un petit reportage qu'on a fait ensemble au Secours catholique et on ira passer un appel à la Fondation l'Abbé Pierre. Puis, un deuxième petit coup de fil à l'étranger. À un écrivain libanais qui s'appelle Camille Amoun et qui est actuellement au Liban. Ensuite, il y aura La Bonne Pioche de Tanzila, une lecture et de la musique. Il y a de quoi faire. Pour commencer, on vous a posé la question dans la rue. C'est quoi pour vous la vulnérabilité? On écoute.
Vulnérabilité, c'est le manque de confiance et surtout la peur.
Pas assez fort pour prendre des décisions ou pour remener leur vie comme ils l'entendraient.
Quelqu'un qui est sous emprise de quelqu'un d'autre, il est très vulnérable.
Peut-être que ça peut venir de la précarité.
Pour moi, c'est se sentir menacé. Quand, par exemple, quelqu'un nous dit des choses pas bien sur nous, des trucs comme ça.
Être agressé, c'est tu te sens un peu seul et c'est comme si les autres ils sont plus forts que toi.
Penser comme une faiblesse, mais si on l'avoue, c'est une force.
Être normal.
Pour moi, la vulnérabilité, c'est ça.
Et l'invité théâtre de notre première émission, c'est Émilie. Oh, excusez-moi. C'est Julie Deliquet, excusez-moi. On est avec Camélia Robespierre et moi, Fatou.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gon Robespierre. Bienvenue à l'interview de À la jeunesse les micros. Nous recevons aujourd'hui Julie Deliquet, qui est la directrice du théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, et qui est également la deuxième femme à se produire dans la cour d'honneur du festival avec son spectacle Welfare qui prend place dans un centre social états-unien dans les années 70.
C'est ça, bonsoir. Donc, pour commencer, j'aimerais bien que vous me donniez votre définition de la vulnérabilité.
J'étais en train de me poser la question quand j'écoutais votre micro-trottoir. C'est vrai qu'il y a, il y a deux versants, c'est-à-dire que la vulnérabilité, c'est la fragilité. Et c'est aussi, je suis assez d'accord avec le monsieur, finalement, ça peut être une force aussi. Ça veut dire avouer que des fois, on est dans des situations où, qui fait que la notion d'égalité est remise en question et du coup la vulnérabilité advient et du coup ça peut être un combat aussi d'avouer sa peur, d'avouer encore des luttes à obtenir et puis il y a la vulnérabilité qui est plus sociale et plus sociétale et du coup plus politique qui est liée aussi à la précarité.
Mais c'est beaucoup perçu comme une faiblesse aussi la vulnérabilité, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais beaucoup de gens dès qu'on entend vulnérabilité on pense à de la faiblesse, alors que ce ne l'est pas forcément.
Non, et d'ailleurs, en travaillant sur cette thématique-là, moi j'ai trouvé que c'était, ça me faisait du bien de constater qu'en tant qu'homme et femme, et du coup en tant qu'humain, la vulnérabilité, elle fait partie de nos vies. De toute façon, c'est une constante. On ne sait pas ce qui va nous arriver dans l'heure qui va suivre. Donc on est vulnérable. Même la peur fait qu'elle nous protège parce qu'on a envie de faire des tentatives. Et du coup, c'est des alertes que c'est risqué. Mais tout ça est terriblement rassurant. Peut-être que d'ailleurs, le pire dans une société, ce serait de se dire qu'il faut tout gagner par la force. Il faut être dans un endroit où la vulnérabilité ne peut pas advenir. C'est impossible.
On serait dans une société un peu fasciste.
Si... Oui, et puis dans une société de la performance. Est-ce que ça, c'est très intéressant? Finalement, si on accepte les concepts d'égalité et on accepte le concept de différence, donc à partir de là, on est vulnérable face à la différence de l'autre.
Exactement. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On est parti regarder votre pièce Welfare qui porte sur un centre social qui est tiré d'un documentaire réalisé par Frédéric Wiseman en 1973. Mm-hmm. On a regardé le spectacle qui a été quelque chose de très percutant, mmh. Mais on s'est immédiatement derrière posé la question, est-ce que cela n'aurait pas été plus pertinent de faire un spectacle directement sur les problèmes de la France
d'aujourd'hui.
Contemporaine, directement aujourd'hui?
Alors pertinent, j'en sais rien, peut-être, en tout cas moi en tant qu'artiste je ne serais pas capable de le faire, ou alors je prendrais une caméra et j'irai au contact directement des hommes et des femmes qui travaillent sur ces questions-là ou qui sont touchés par ces questions-là. Moi, en tant qu'artiste, j'ai besoin de la transformation pour parler d'aujourd'hui parce que finalement, je, dans mon théâtre, je ne donne pas à voir directement. J'aime que, pour le spectateur et moi d'ailleurs en tant que metteuse en scène, les choses m'arrivent et me laissent la place aussi de les voir, de voir le commun, de voir le pont avec aujourd'hui, avec notre société contemporaine.
Mais ne pensez-vous pas que cela crée une forme de distance avec les personnes qui viennent peut-être regarder la pièce, qui se disent que c'est peut-être quelque chose de révolu? Par exemple, le théâtre que vous dirigez, c'est en Seine-Saint-Denis, mm-hmm. À Saint-Denis, qui est l'une des villes les plus pauvres en Seine-Saint-Denis. Et ce qui se passe dans la pièce est quelque chose qui se passe au quotidien dans votre environnement, ouais, de travail. Et donc, le fait de faire une pièce qui porte sur un autre pays, à une autre époque, ne crée pas une certaine forme de distance
avec... Si elle crée une distance, ça veut dire que, de toute façon, la question sociale est déjà mise à distance de par la personne qui le ressent. Moi, j'ai pas besoin qu'on me montre les choses directement pour les ressentir et faire le pont. Après, je laisse la possibilité que pour certains, ce pont-là ne se fasse pas, peut-être parce que la question sociale, ce pont entre hier et aujourd'hui, qui est nommé quand même et qui est notre réalité quand même sociale dans laquelle on baigne. Et en plus, la question sociale depuis la crise sanitaire quand même, elle est en plein dans nos vies, et la question de nos missions de service public aussi. Mais c'est pas grave que chacun et chacune ait un rapport distancié différent, comme moi je ne l'ai pas et comme d'autres l'auront. Je cherche pas un message de groupe, d'effet de masse.
Ok, et donc on va rebondir sur ça. Que faites-vous pour essayer de pousser, par exemple, les jeunes de votre ville, parce que votre théâtre est inscrit dans cet environnement-là, de les pousser à un peu plus s'intéresser à la culture et plus précisément au théâtre?
C'est ça qui est mal connu des fois de nos missions de centres dramatiques nationaux, qui sont des missions de décentralisation pour amener aussi la culture le plus largement possible. Et ça, il y a énormément d'ateliers, de missions, que ce soit avec l'école, l'hôpital, avec les centres sociaux. On fait du théâtre à l'extérieur et aussi les structures, et notamment de champ social. J'entendais le Secours catholique ou les Petits Frères des Pauvres. On fait venir aussi les ateliers à l'intérieur des structures, et du coup derrière, le pont pour passer la barrière du spectateur et franchir la porte du théâtre est beaucoup plus facile à faire. Et ça, il y a énormément de choses. Notre quotidien au théâtre est beaucoup plus plein d'enfants, d'adolescents qui fréquentent les murs du TGP, ou d'actions qui sont menées en dehors avec des établissements complices,
Il s'inscrit-elle réellement sur le territoire ?
Complètement sur le territoire de Saint-Denis, okay. avec des jeunes, et notamment la jeunesse, qui participent à un nombre d'ateliers, mais c'est énorme, et aussi de projets au long cours qui donnent place à des créations en fin de saison, où là, on a quand même 25 jeunes de Saint-Denis qui sont arrivés aujourd'hui pour vivre 5 jours de festival avec nous, et pouvoir faire un parcours de spectateurs. Créer une œuvre avec les artistes, c'est créer du lien. C'est notre mission première. Et cette chose-là, elle se cherche au quotidien et elle se réinvente.
Mais justement, est-ce que cette... les jeunes de Seine-Saint-Denis, du coup, sont plus ouverts au théâtre. Est-ce que ça leur permet de plus s'exprimer ou d'avoir un sens artistique qu'ils n'avaient pas forcément, de développer quelque chose en plus en eux, quoi?
Je crois qu'il y a la mission de l'école aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de structures, de sections art qui sont proposées, et du coup aussi une fréquentation du théâtre Gérard Philippe qui est quand même très présente. Nous, on a tout le temps des jeunes dans nos salles, et des ateliers, et du coup des créations qui sont menées en parallèle, soit en milieu scolaire, soit en milieu périscolaire dans l'enceinte du TGP. Donc je crois que c'est quand même un théâtre qui est connu pour la fréquentation de sa jeunesse. Ça pose la question, effectivement, le lien il se fait aussi beaucoup avec l'école. Qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on rentre dans les études supérieures? Comment on maintient ce lien-là avec les étudiants, avec celles et ceux qui font aussi d'autres formations? C'est des interrogations qui sont permanentes. On n'a pas la recette acquise, on essaye de la chercher, mais à tous les âges de la vie, que ce soit chez le très jeune public, c'est-à-dire dès la crèche, jusqu'au travail qu'on mène dans les EHPAD.
Alors, je me posais la question aussi, j'ai l'impression que le théâtre n'intéresse plus tellement les plus jeunes. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est maintenant beaucoup plus, je ne sais pas si c'est fait volontairement, mais c'est quelque chose qui est plus destiné à un public un peu plus âgé, et on va dire, on va pas avoir peur des mots, un public un peu plus bourgeois. Et donc j'aimerais savoir comment est-ce qu'on pourrait faire pour continuer à attirer ce jeune public, et un jeune public peut-être un peu plus populaire qui pourrait accéder au théâtre.
Déjà, nous, dans les chiffres, ce n'est pas tout à fait vrai, en tout cas au TGP de Saint-Denis. Mais la question, c'est aussi quelles œuvres on présente. D'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On n'est pas obligé de se reconnaître dans une œuvre pour aimer. En revanche, il faut qu'elle puisse s'adresser à nous. Donc, je sais que nous, on a un grand festival pour tous les âges, de la maternelle jusqu'au cours élémentaire. Il y avait vraiment un trou sur la préadolescence et le rapport au collège. Et je trouve que cet âge, il est particulier. On a décidé que chaque saison, il y aurait un spectacle vraiment dédié à cette préadolescence-là. Et puis, essayer aussi d'avoir une mission sur tous les lycées qui sont loin du centre-ville, et qui fait que les classes ne peuvent pas forcément se déplacer. Donc, c'est des choses à inventer au quotidien. Et après, c'est beaucoup plus facile d'y revenir. J'ai pas l'impression que la jeunesse boude nos salles. Après, c'est une mission qui est jamais gagnée.
Merci beaucoup, Julie Deliquet. Je laisse la parole
avant
à Marc.
Avant de continuer notre discussion, on va donc écouter Elia et Kenzo, qui sont allés au secours populaire, pour voir comment le monde continue à mal aller.
À la jeunesse, les micros.
À la jeunesse, les micros.
On va au secours catholique.
Donc je m'appelle Marie-Claire Vérac. Et on était en train de parler justement qu'on peut interpeller les radios, la presse, pour raconter ce qui se passe.
Là, aujourd'hui, on voulait vraiment savoir, vu que vous venez au secours catholique, comment ça se passe, depuis combien de temps vous venez, si ça ne vous dérange pas.
Je suis là depuis décembre 2020. Séparation, confinement, là. Et donc, maintenant, j'ai un appartement, j'ai vécu un peu la rue.
D'accord.
Et j'ai appris, comme tout le monde, les circuits des précaires dans la rue, qu'on peut être propre, manger et être accueilli. Et si on a des papiers, des démarches, voilà, il y a tout ça qui est mis possible. Et maintenant, je viens ici parce que c'est convivial, mais parce qu'aussi il y a l'atelier créatif avec Adèle. On a un projet pour participer déjà au festival C'est pas du luxe, qui a lieu tous les ans. Vous êtes plutôt branchés sur la culture, c'est ça qui m'intéresse. Parce que la culture, c'est important. C'est ce qui fait avancer les sociétés, sinon on serait mort.
C'est la plus grande des transmissions, la culture. S'il n'y a pas de culture, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'ouverture d'esprit. Je suis Pat, voilà. Patatras. Ça fait 6-7 fois que je viens. Mais ça fait 17 ans que j'habite à Avignon et je suis dans un gros merdier financier, raison pour laquelle je suis ici. Donc on m'a bloqué mes comptes. Et sans citer la banque postale, trop tard, je l'ai cité,
Ils m'ont bloqué mes comptes pour quelques centaines d'euros de découvert et je ne peux plus honorer mes prélèvements automatiques, plus rien. Donc ils me foutent dans un gros merdier, quoi. Je ne fais pas la manche parce que c'est peut-être ma pudeur qui veut ça.
Et du coup, le thème de notre première émission, c'est la vulnérabilité. Et je voulais savoir, vous, c'est quoi votre définition de la vulnérabilité ?
Vaste sujet. C'est un sujet philosophique, carrément, là, que vous abordez.
Politique.
Ouais, politique.
Chacun, en fonction de la personne à qui on a posé la question.
Moi, je sais ma faille où elle est. C'est au niveau de l'affectif. La précarité, ça ne me fait pas peur. Pour moi, c'est pas ça, la vulnérabilité. Si on vous méprise, on vous ignore, si on vous éteint de la surface de la planète, l'indifférence, ça rend vulnérable.
C'est normal.
Ce qui fait vivre, c'est l'amour. Donc, pour moi, c'est la vulnérabilité, c'est pas sur le matériel.
La vulnérabilité, ouais, c'est un peu, c'est l'isolement, c'est extrêmement complexe et sensible comme sujet, quoi. Ouais.
Merci, monsieur, d'avoir répondu.
Merci beaucoup.
Je t'en prie.
Et bonne chance. Bon courage.
Bonne chance.
Qu'est-ce que ce reportage vous inspire ?
Ah non, mais j'écoute, c'est drôle parce qu'il y a des phrases entières là qui sont prononcées, le monsieur qui dit que ses comptes sont fermés et que du jour au lendemain, il se retrouve dans cette situation-là et qu'il ne peut plus honorer ses paiements.
Il y a un personnage qui dit ça
exactement,
qui dit
ça m'a
chose,
vraiment
qui a
troublé.
Dit il a travaillé, il a reçu beaucoup d'argent.
Exactement, et du coup, du jour au lendemain, après, ses comptes sont fermés. Mais c'était ça, d'ailleurs, à Saint-Denis, on a reçu des travailleurs sociaux qui nous parlaient de leur travail et il y avait des phrases qu'ils prononçaient qui étaient exactement les mêmes de l'œuvre originelle qui, quand même, se passe il y a 50 ans aux États-Unis, dans un autre système social. Donc là, j'étais vraiment étonnée de voir que, de toute façon, tomber dans la précarité, c'est pas une condition, c'est un état. Il y a autant de différences et ça peut arriver.
Et donc, socialement parlant, depuis les années 70, il y a déjà des années, rien n'a vraiment tellement évolué.
Y a une évolution, si, après la condition humaine, non. Et la question sociale qui est au centre de nos préoccupations politiques, j'ai l'impression qu'elle est encore plus exacerbée et encore plus aussi mise en priorité et du coup en fragilité. On voit à quel point les missions de service public, l'école, l'hôpital, on l'a bien senti tous dans la pandémie, à quel point c'est les endroits essentiels de nos sociétés.
On a l'impression que ça va de plus en plus mal. C'est l'impression que la presse nous donne généralement, et de par les témoignages de tous ceux qui travaillent dans les services sociaux, que ce soit les sages-femmes, les infirmières, les professeurs, partout, un peu partout, on a toujours à chaque fois cette impression de on n'a pas assez de budget, on travaille beaucoup, on n'est pas assez bien rémunéré, et donc on a l'impression que ça n'évolue pas tellement et que ça se dégrade même.
Oui, c'est pas tellement le système qui est dysfonctionnant, c'est qu'il manque de moyens, et du coup c'est l'humain qui trinque, l'humain qui est au travail, l'humain qui est en face, et du coup il y a une violence qui s'exprime, c'est sûr.
Est-ce que c'est forcément le système ou ce sont les exécutants qui n'ont pas les moyens ?
En tout cas, c'est une histoire de priorité de financement. C'est-à-dire que, moi, en tout cas, je crois à l'école publique, je crois à l'hôpital public, je crois aux droits sociaux. Le droit social, c'est un droit. Il faut encore faut-il y avoir accès, encore faut-il avoir les moyens de travailler dans des bonnes conditions, parce que travailler dans des mauvaises conditions, c'est recevoir aussi dans des mauvaises conditions.
J'ai une petite question sur la durée du spectacle. Mm-hmm. Déjà, on a beaucoup aimé, franchement, il était génial.
Merci.
Mais j'ai trouvé ça relativement long. Et je voulais savoir si c'était dans le but de nous faire ressentir la frustration et l'attente de ce qu'ils ressentent les gens à la CAF, ou c'était laissé au hasard.
Alors déjà, l'œuvre de Frédéric Wiseman est beaucoup plus longue que la pièce de théâtre, donc je ne voulais pas être dans un format de 3h30. Mais je voulais quand même que, exactement ce que vous nommez, ressentir le temps qui passe, le temps d'attente, le temps de cette fragilité aussi, de dire quelle sera ma place dans cette journée, quand est-ce que je vais être appelée, et que cet instant puisse être au maximum partagé, avec une pause quand même, à un moment donné, comme une sorte de faux entracte ou de mi-temps, dans lequel finalement ils se mettent à jouer, on peut respirer un peu, et finalement rien de ce qui va être dit d'un point de vue de réclamation de droit social ou de travail social ne va se jouer, mais il y a autre chose qui se joue. derrière, en fait...
Il y a un côté beaucoup plus humain qui s'exprime.
Voilà, il y a des hommes et des femmes qui s'expriment.
Avec l'homme un peu plus violent, qui se met à rigoler avec tout le monde. Le policier qui était un peu plus dur, qui commence à se relâcher un peu en enlevant sa veste.
On sent qu'il y a, oui, il y a des communautés, il y a des liens qui se font, il y a des appartenances. Et puis aussi de voir que la violence, elle arrive aussi de ce côté-là. Avec le racisme, avec la place des femmes.
On a l'impression aussi que les agents de nos services publics souffrent aussi.
Bien sûr.
À cause du manque de moyens. On a même vu l'une des agents qui se fait directement agresser. Mm-hmm. Et donc, est-ce que ces agents-là finissent par devenir aussi victimes du système ?
Oui, je crois. Et en même temps, de par le fait qu'ils soient victimes, des fois, ils peuvent aussi incarner une forme de violence parce qu'eux-mêmes sont épuisés. Donc la frontière, elle est mince entre les deux. Mais c'est vrai qu'on avait... souvent, on disait, c'est les épuisés face aux fatigués.
On a encore un dernier petit jeu avant de nous quitter. Alors, tous les jours, on a un jeu pour nos invités. C'est la bonne pioche de Tanzila.
Salut, c'est Tanzila.
La bonne pioche.
La bonne pioche.
La bonne pioche.
La bonne pioche.
Tu pioches un mot et tu m'expliques à quoi tu penses.
Et les micros, ils sont à qui ?
Ils sont à nous !
Alors, radio. Alors, moi, je peux dire que la radio, c'est un média que j'adore parce que mon spectacle, il parle de la place de la parole. C'est des gens qui réadviennent citoyens parce que tout d'un coup, ils posent des mots sur leurs conditions et qu'en face, les agents les écoutent. Et je trouve que la radio, c'est un média extraordinaire parce qu'on laisse les gens parler. Et puis nous, on est juste à écouter. Et je trouve que c'est des endroits dans la société à prioriser. Donc voilà, vive la radio.
Merci beaucoup, Julie Deliquet. Merci beaucoup, Tanzila. Merci beaucoup, Camélia. Et merci, Robespierre.
Merci à vous. Merci.
Et les micros sont à qui ?
Ils sont à nous !
On enchaîne avec une lecture avec Brandy.
Alors, comme nous sommes dans un festival de théâtre, nous allons entendre un texte extrait de la pièce « Celle qui regarde le monde », une pièce d'Alexandra Badea, autrice, metteuse en scène et réalisatrice. Une pièce très engagée sur la rencontre entre une lycéenne et un jeune réfugié qui a dû quitter son pays en guerre. Et c'est votre comédien, du coup, Alexis Thiénot, qui va nous faire la lecture. Alexandra, pouvez-vous nous dire très rapidement deux, trois mots sur la pièce et nous situer aussi l'extrait que votre comédien va lire ?
C'est une pièce qui s'articule autour d'une rencontre. C'est une pièce que j'ai écrite il y a quelques années suite à une expérience que j'ai vécue dans un camp de réfugiés à la Grande Synthe, qui est un camp de réfugiés dans le nord de la France. Et ce qui m'a frappée, c'était l'engagement des jeunes comme vous qui venaient de partout et qui étaient là pour donner du sens à leur action et qui avaient envie de rencontrer d'autres jeunes comme eux, des mineurs isolés. Et quelques années après, j'ai voulu écrire sur ça. Donc c'est une pièce qui est articulée autour de la rencontre des deux adolescents qui se découvrent en échangeant et qui découvre aussi une autre réalité du monde qu'ils ne connaissaient pas. Et l'extrait que vous allez entendre, c'est un fragment d'un monologue de ce jeune réfugié qui est rejeté par l'administration, qui se trouve dans une situation de détresse, dans une situation de vulnérabilité. On parle beaucoup de vulnérabilité dans ce texte, et qui arrive à assumer aussi sa vulnérabilité et en faire quelque chose de puissant.
Merci. Écoutons maintenant un extrait de cette pièce.
Je ne croyais pas que ce serait si lourd. J'arrive pas à me projeter. Pour l'instant, je suis là et ce moment est dur. J'ai vécu tellement de séparations. Je me croyais sevré, mais je ne le suis pas. Mon ami, il est mort 2 mois après mon père. D'autres sont morts avant. Mais à son enterrement, j'ai enterré mon cœur aussi. Je me suis dit, plus jamais j'aimerai quelqu'un. Plus jamais je m'arrêterai à côté d'un autre corps trop longtemps. J'ai fui l'amour, l'amitié. J'ai coupé tout ce qui me ramenait à la tendresse. Autrement, j'aurais été mort. Mais il y a eu des corps qui se sont arrêtés à côté de moi. Il y a eu des corps qui m'ont donné de l'amour sans attendre une réponse de ma part. Il y a eu Anna, il y a toi. Ma carapace s'est fissurée. À nouveau, je me sens vulnérable. Fragile même. Mais je suis bien comme ça. J'étais mort, Déa. J'étais qu'un corps qui restait en vie. Mais un corps qui reste en vie, c'est rien s'il n'est pas rempli d'un peu d'émotion. Je me sens à nouveau vivant, même si je suis triste. Tu vas me manquer.
Merci beaucoup. Merci Alexis. Et merci Alexandra. Une petite question, où est-ce qu'on peut, quand est-ce et où est-ce qu'on peut voir votre pièce ?
On joue chaque jour au Théâtre 11, qui est à côté de cet endroit, 11 boulevard Raspail, à 11h25.
Merci encore. Alors, on passe du théâtre à la musique, toujours en restant dans le thème de la vulnérabilité, avec une part d'engagement, et ce, en compagnie de, Marie Fortuit, une comédienne, metteuse en scène et autrice. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pourriez-vous nous dire ce que l'on va entendre et pourquoi cette chanson ?
Je vais vous chanter une chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle « La vie en vrai », qu'elle a écrite en 1981. Et cette chanson, je l'ai choisie parce que d'abord le titre m'a appelée, c'est un titre, la vie en vrai, c'est être authentique, c'est comme un appel. Et ça fait écho pour moi à la vulnérabilité, justement, on en parlait tout à l'heure. Pour moi, la vulnérabilité, c'est une responsabilité aussi en fait en tant qu'artiste, parce qu'elle est vraiment à la source de toutes nos émotions, que ce soit la colère, l'indignation, l'amour bien sûr et la tendresse. Voilà.
Merci. Passons à l'écoute maintenant.
C'est vrai qu'on dit, c'est beau la vie comme dans les livres. On rêve de la vivre aussi comme c'est écrit. Mais c'est déjà bien assez compliqué de vivre. On écrit son petit chapitre et ça suffit. Si on insiste, on voit surgir entre les pages des sentiments qui poussent pas dans les romans. On n'est pas d'accord sur le choix des personnages. On n'est pour rien dans l'histoire finalement. Mais dans la vie en vrai, comme je t'aimerai, que ce soit de loin ou de près. Ce que j'ai dit, je le redirai, et pour de rire, et pour de vrai. C'est vrai qu'on aime s'inventer comme au cinoche. On voit les plans bien découpés comme au ciné. Le scénario se déroule sans anicroche. Quand le mot fin s'allume, on n'est pas étonné. Mais on découvre en soulevant un bout de toile qu'on a raté la grande scène des amoureux. Qu'on sait pas se faire embrasser sur fond d'étoiles. Qu'on a sommeil et que le rôle est ennuyeux. Mais dans la vie en vrai, comme je t'aimerai, que ce soit de loin ou de près. Ce que j'ai dit, je le redirai, et pour de rire, et pour de vrai. C'est vrai qu'on pourrait même y croire comme dans le poste, sûr qu'on pourrait se regarder à la télé. On pourrait tout chanter sans craindre la riposte et saluer sans jamais risquer les sifflets. En éteignant, on se sent un peu mal à l'aise. Et si on pleure, ce n'est pas en trois couplets. Sans le playback, on oublie tout jusqu'aux fadaises. On se retrouve avec son cœur au grand complet. Mais dans la vie en vrai, comme je t'aimerai, que ce soit de loin ou de près. Ce que j'ai dit, je le redirai, et pour de rire, et pour de vrai.
Merci beaucoup. Merci à vous, Marie Fortuit.
pour cette belle parenthèse musicale. Et quand est-ce qu'on peut voir votre spectacle, du coup ? Alors, le spectacle donc, s'appelle La vie en vrai, et c'est tous les soirs au Théâtre du Train Bleu à 22h30, et je partage le plateau avec Lucie Sansen. Voilà. Très bien.
Merci, Brandy. Dans cette émission, on donne la parole aux associations. Et aujourd'hui, on part à la rencontre de la Fondation Abbé Pierre avec Dorian et Nesrine.
À la jeunesse, les micros !
En direct du Festival d'Avignon.
Allô ?
Oui, bonjour, Frédéric Abbas et Nesrine et Dorian au téléphone.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes directrice des affaires sociales de la Fondation Abbé Pierre ?
Oui.
Alors, ce soir, nous parlons de la vulnérabilité, pardon.
Oui.
Je vous remercie d'être avec nous au téléphone. Et j'aurais une question à vous poser. Vous travaillez avec beaucoup de personnes vulnérables, mais comment vous gérez votre vulnérabilité à vous ?
Ah oui, alors, déjà, je travaille avec une équipe d'une trentaine de personnes et nous ne travaillons pas directement avec des personnes vulnérables. Dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé longtemps auprès de personnes en situation de vulnérabilité, fragilisées. Comment je gère ? Comment j'ai géré ? Sûrement par un outil qu'on appelle la réflexivité, c'est-à-dire comment on s'ajuste en fait. Le travail social, c'est s'ajuster en fonction du contexte dans lequel on travaille, avec qui on travaille et ce que nous renvoie l'autre. Et puis, la chance qu'on peut avoir en travail social et puis dans la vie aussi, c'est d'avoir des lieux où on peut, des lieux refuges un peu, où on peut trouver à la fois du réconfort et surtout de la prise de distance avec les situations émotionnelles.
Oui. Moi, la question qui m'intéresse le plus, c'est quel comportement on peut adopter face à quelqu'un de vulnérable ?
C'est une question extrêmement difficile parce qu'on est fait de ce que nous sommes faits. Nous sommes faits de trajectoires, d'émotions, de culture aussi. Et qu'il n'y a pas de vérité et de règles et de recettes pour s'ajuster à la vulnérabilité. Le seul conseil ou la seule condition qu'on peut poser, c'est peut-être d'accueillir l'autre de là où on est et dans le moment où on est. Alors, c'est un peu flou ce que je vous dis. Mais c'est aussi accepter de se faire confiance, accepter aussi d'écouter, d'entendre ce que dit l'autre, de là où il parle, parfois avec colère, parce que la vulnérabilité, ça peut amener énormément d'émotions. Parfois aussi écouter le silence, parce que l'autre qui est en vulnérabilité, parfois il a du mal ou elle a du mal à mettre les mots sur ce qui fait difficulté ou si, sur ce qui rend vulnérable, comme nous tous, je crois. Donc, c'est s'appuyer sur la connaissance que nous avons de soi-même, que chacun peut avoir de soi, et puis écouter et peut-être reformuler pour aider l'autre à parler et à dépasser l'émotion du moment de la vulnérabilité.
Merci Frédéric. Merci Frédéric et bonne soirée.
Merci à vous. Bonne soirée, bonne émission.
Merci.
Merci Nesrine. Merci Dorian. Et on accueille maintenant deux invités, Thiago Rodriguez et Caroline Gillet. Et pour vous interroger, Noah, Elia et Mariama, c'est à vous.
Nous sommes donc avec Caroline Gillet, journaliste et productrice radio.
Et Thiago Rodriguez, le directeur du Festival d'Avignon.
Bonjour.
Tout au long de l'émission, on a parlé de la vulnérabilité et la première chose qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce que ça évoque pour vous ?
Salut tout le monde. Il s'est dit des choses tellement belles sur ce mot qui est tellement beau. La vulnérabilité, c'est, je pense, quand on est journaliste radio, la plus belle chose. Je pense qu'on est en recherche toujours de la vulnérabilité chez les gens qu'on rencontre parce que je pense qu'avec le temps, on apprend. Moi, je pensais pas à ça en sortant d'école de journalisme, mais avec le temps, je me suis rendu compte que les gens qui étaient très sûrs d'eux, c'était beaucoup moins intéressant et que du coup, il fallait aller trouver ceux qui allaient accepter de s'ouvrir, d'être vulnérable, de parler des difficultés. Et puis, en tant que journaliste, la question après, ça va être qu'est-ce que je fais de cette parole pour faire en sorte que la personne que j'ai en face de moi se sente en confiance, se sente respectée. Qu'est-ce que je vais restituer de cette parole? Qu'est-ce qu'il me dit à moi? Qu'est-ce qu'il dit à la journaliste? Et voilà, qu'est-ce qu'on fait avec cette matière, cette vulnérabilité, cette fragilité-là?
Et vous, Thiago?
Pour moi, c'est le moment de partage le plus profond entre êtres humains. Quand on se rend compte que l'autre à notre côté est vulnérable, ou que nous sommes vulnérables à côté de quelqu'un d'autre, ou que tous les deux nous sommes vulnérables, c'est là que je pense qu'on retrouve notre humanité. C'est peut-être aussi ce qui me passionne au théâtre, c'est que, par exemple, les actrices et les acteurs, le geste le plus profond qu'ils font, c'est de se rendre vulnérable face à d'autres. Et c'est ça qui fait toute la complicité, ce contrat imaginaire entre artistes et public, qui fait que c'est très puissant, par exemple, d'être ici au Festival d'Avignon et de voir chaque jour ces éclairs de vulnérabilité qui nous rendent peut-être un peu plus humains, un peu plus proches les uns des autres. Moi, c'est 7 jours de Festival d'Avignon, j'ai pleuré 2 fois par jour. Et j'ai pleuré en observant la vulnérabilité, en observant les artistes, observer la vulnérabilité du monde et me renvoyant à ma propre vulnérabilité. Et avec toutes ces larmes, je suis heureux.
Et donc, pleurer vous fait pas peur, du coup?
Les ?
Pleurer vous fait pas peur, du coup?
Non, pas du tout, pas du tout. Et j'ai pas honte de pleurer. C'est une expression, c'est vrai, de vulnérabilité, mais aussi d'humanité. Et je pense que les mots, ils riment. Vulnérabilité et humanité, mais c'est pas une coïncidence.
D'accord. Thiago, vous êtes...
J'ai adoré. D'accord. Pardon. Alors, parlons sérieux, là. Non, pardon. Alors, arrêtons avec la poésie.
C'est un peu glacial, des fois.
Problème.
Vous êtes le directeur du Festival d'Avignon. Ça répond à vos attentes? C'est pas trop dur, surtout avec votre démarche d'inclure les jeunes un peu au théâtre et tout ça?
Je travaillerai une semaine dans quelque chose que j'aime pas juste pour vivre ces 5 minutes avec vous. Alors, en tant que directeur du Festival d'Avignon, je travaille toute la semaine en faisant des choses comme celle que je fais ici, qui est de partager ce moment avec vous. Je vais jamais me plaindre.
Caroline, vous avez présenté Inside Kaboul, qui retrace l'histoire de 2 amis qui vivent en Afghanistan et qui racontent leur parcours. Et on va écouter une partie de...
I wish I could bring my family with myself. I wish I could bring my home.
J'aurais aimé prendre ma famille avec moi. J'aurais aimé prendre ma maison. J'aurais aimé prendre mon pays avec moi. Les emmener dans un endroit plus sûr. Et ces jours-ci, tout ce que j'ai laissé derrière moi me manque vraiment. Je n'ai pu emporter que mon corps. Sans mon âme.
J'ai une question pour vous. C'est celle de savoir... comment on montre quelque chose de vulnérable? Qu'est-ce qu'on choisit de garder ou de partager avec des gens qu'on ne connaît pas?
Merci. Ce projet, on a entendu effectivement un petit extrait. C'est donc ces 2 jeunes filles en Afghanistan à qui j'ai proposé de m'envoyer des notes vocales pour me raconter leur quotidien sous les talibans. Et elles m'ont fait confiance. C'est vrai qu'il a fallu trouver une façon à distance de se raconter, de peut-être leur donner une partie de moi, leur montrer peut-être mes fragilités ou en tout cas de m'ouvrir moi à elles pour qu'en retour, je pense, elles acceptent de le faire donc, comme n'importe quelle autre relation, j'imagine, mais là, à distance, on s'est appuyé uniquement sur le son. Il fallait qu'à travers le son, j'arrive à leur faire entendre quelle était ma réalité, quelle était ma personnalité, quelles étaient mes attentes, que je réponde très sincèrement à leurs messages, que j'essaie de... Et parfois, c'est difficile parce qu'effectivement, quand on vit sous les talibans, qu'on a 20 ans, je pense que ce qui est le plus difficile peut-être, c'est justement la vulnérabilité qui est créée par un régime qui fait qu'on ne peut jamais savoir ce qui va nous arriver le lendemain. Avant, je pense qu'il y a toujours eu beaucoup de violence. Enfin, ces 20 dernières années, elles ont toujours connu ça. Mais là, du jour au lendemain, il peut y avoir des décisions, des décrets, des lois qui font qu'on ne va plus finalement pouvoir sortir de chez soi, on ne va plus pouvoir aller dans les bains publics, on ne va plus pouvoir voir ses amis, aller à l'école, etc. Et donc, quand on reçoit des messages de personnes qui sont dans cette détresse-là, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans son confort? Moi, j'habite à Paris, dans son petit appartement. Et comment on reçoit cette détresse-là? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on on crée un espace où cette parole est possible? Et ensuite, comment on crée ensemble peut-être un projet où chacun peut s'exprimer, où elles vont avoir l'impression que leur parole est prise en compte et qu'elle est ensuite partagée le plus largement possible, parce que on parlait de la vulnérabilité, on parlait aussi de, il y avait une dame qui disait que la vulnérabilité c'était aussi l'effacement, et là c'est la plus grande menace pour ces jeunes filles, c'est de se dire qu'on va les oublier.
Et moi j'ai écouté vos podcasts du coup, et j'ai beaucoup aimé parce que j'avais l'impression d'avoir vécu ce qu'elles ont vécu, et vraiment c'était très touchant. Et je voulais savoir comment vous avez fait pour gérer tout ça émotionnellement parlant, parce que c'était dur à écouter quand même.
Alors moi aussi, comme Thiago, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré, énormément pleuré. Et c'est un chemin. Donc moi, j'ai fait une école de journalisme et petit à petit, au début, je faisais de l'information pure et dure. Et en fait, petit à petit, apprendre à accepter qu'on peut être en interview, on a le droit de pleurer. Il y a des gens qui diraient peut-être que ce n'est pas notre place. Donc qu'est-ce qu'on fait, c'est nos émotions à nous et effectivement comment on réagit à tout ça. Et puis la voix, c'est quelque chose de tellement fort, intime. Je pense que si tu as aimé écouter et que tu t'es senti proche, c'est parce qu'il y a quelque chose dans la radio qui rend cette proximité possible. On a parlé tout à l'heure du fait qu'elles sont généreuses, elles acceptent de témoigner, même au réveil, même quand elles se sentent en difficulté, même quand elles se sentent bêtes, même quand dans tous ces moments-là, elles acceptent d'en parler. Moi, je crois qu'il y a quelque chose avec la voix qui est si singulier. Je sais que j'ai commencé la radio parce que quand j'avais 15-16 ans, je suis tombée sur des cassettes audio de ma grand-mère qui avait été enregistrée à l'hôpital. Ma grand-mère, que j'avais jamais connue, avait été enregistrée par mon père et tous ses frères et sœurs. Elle était à l'hôpital, elle était sur le point de mourir. Et en fait, ils ont décidé que c'était avec une cassette qu'ils allaient garder les dernières traces de cette personne avant qu'elle disparaisse. Et je savais pas, je crois qu'ils avaient oublié l'existence de cette cassette. Moi, j'avais beaucoup entendu parler de cette femme, et un jour, je suis tombée sur ces cassettes-là. Et donc, c'est par la voix que j'ai rencontré cette femme. Et je pense qu'il y a tellement de choses qui passent par l'oralité, par le timbre, par la façon de s'exprimer, que l'image, finalement, est un peu pauvre à côté de cette richesse-là. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que tu as peut-être été émue par le podcast, j'espère.
Oui, vraiment, c'était super touchant. Et j'avais une question pour vous deux. J'ai vu que vraiment, c'était un objectif pour vous de donner la parole à la nouvelle génération, de leur donner vraiment une parole sans filtre. Et je voulais savoir pourquoi. Pourquoi la jeune génération ?
Moi, je dirais déjà parce que le monde vous appartient. Et une des choses que j'ai appris à vivre à partir d'un certain moment, c'est à me soucier de l'avenir. Je pense que ça fait partie dans la vie. À un moment donné, on croit des choses pour nous tous et nous toutes. Et peu à peu, on commence à croire encore plus à des choses pour ceux qui viendront. Et on commence à prendre des décisions en pensant au parcours de ceux qui sont plus jeunes que nous. On se responsabilise. Et surtout quand on arrive, dans mon cas, je travaille au Festival d'Avignon, mais je travaille dans un poste spécifique. J'ai des responsabilités de prendre des décisions qui peuvent influencer la vie de personnes, d'artistes, de spectatrices et spectateurs, de personnes qui travaillent. C'est une pression, mais c'est aussi un privilège. Parce que là, par exemple, je peux me mettre au service de ce moment-là. Par exemple, imaginer, commencer à avoir des dialogues et dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment pourrait-on développer un moment où on se rencontre ici au Café des Idées et que ma parole n'est pas plus importante que ta parole à toi. Je tutoie, on est à la radio, je ne devrais pas le faire, je vais être rigoureux que votre parole à vous.
Non, vous pouvez me tutoyer, il n'y a aucun problème.
Non, mais le vouvoie, c'est une forme, dans ce cas-là, c'est vraiment une forme aussi de légitimer ta question et ta parole, votre question et votre parole, dans le sens que, pour moi, c'est très difficile, vous voyez, en français, c'est pas naturel du tout pour en portugais, mais je le ferai. C'est exactement ça, c'est chaque décision, penser à ce qui est, bien sûr, intéressant pour le service public, de culture, de création artistique, pour la liberté artistique, pour l'accès démocratique au spectacle, mais aussi toujours dans une perspective de votre parole à vous en face de moi ou votre parole à vous à mes côtés est aussi légitime que la mienne et elle doit trouver son lieu. C'est juste que moi, je suis arrivé un peu avant vous et alors je suis en position de, avec d'autres et avec beaucoup de conviction, créer l'espace pour cette parole-là. Et alors, je suis à l'écoute.
Merci.
Et je voulais savoir aussi, vu que pour beaucoup de jeunes, justement, qui viennent au Festival d'Avignon, c'est leur première fois ou c'est leur premier spectacle, et comment on réceptionne cette première fois de la jeunesse?
Je réceptionne avec un grand bonheur. Je pense que le Festival d'Avignon appartient à celles et ceux qui viennent pour la première fois, même avant qu'ils viennent pour la première fois. Il a été inventé pour toutes et pour tous. Il doit continuer à exister pour toutes et pour tous, même si leur première fois est encore à venir. Et je pense que c'est très important que cette présence soit une présence qui permet aux personnes qui viennent pour la première fois, soit des jeunes, soit des gens de n'importe quel âge, qu'ils reconnaissent précisément ça, qu'ils viennent voir des spectacles en priorité, parce que c'est ce qu'on fait finalement, on fait des spectacles et on présente des spectacles aux gens, on organise une fête, c'est un super métier, organiser des fêtes où le public se rencontre avec des artistes. Mais surtout, il faut que les personnes qui viennent pour la première fois sont sûres que c'était pensé pour elles et pour eux. Ce festival leur appartient. Et parfois, il faut rappeler des personnes qui n'ont pas l'habitude de voir des spectacles ou n'ont pas l'habitude de venir à des festivals d'art vivant qu'on a le droit d'aimer le spectacle, mais aussi de ne pas l'aimer. On a même le droit de ne pas savoir si on l'aime et de créer le contexte pour vivre une expérience pour laquelle nous n'avons pas encore toutes les réponses. Parce que c'est comme ça dans la vie, quand on vit quelque chose la première fois, on n'est pas censé avoir toutes les réponses et tout connaître. On le vit pour la première fois, avec les erreurs, les nôtres et ceux des autres, mais on vit cette expérience. Et c'est soit ça que je souhaite, que ce soit des découvertes, que les personnes qui viennent pour la première fois se sentent à l'aise et surtout qu'ils sentent immédiatement qu'ils sont propriétaires, elles sont propriétaires de ce festival. Le festival les appartient.
Bah justement, il n'y a pas longtemps, nous, on a découvert Welfare. On est allé le voir un soir et c'était très bien dans l'ensemble. Et on s'est fait, c'est plutôt marrant parce qu'on s'est fait interpeller par une personne plutôt âgée qui était devant nous, qui nous a demandé de nous taire. Est-ce que le fait d'inclure ces jeunes ou ces personnes qui y connaissent pas rien, mais qui n'ont pas trop de notions de théâtre ou de spectacle, va pas créer, pas des conflits, mais des petites incompréhensions, ou au contraire, vous avez pensé à l'entraide entre les habitués et les nouveaux venus au festival?
Je pense que le public habituel du festival est le premier. Les personnes qui viennent depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans sont les premières et les premiers à exiger qu'il y a des premières fois. Parce qu'ils ont vécu cette première fois aussi, eux, et peut-être ils ont fait du bruit. C'est ça qu'il faut dire à cette personne qui vous dit de vous taire. Peut-être cette personne, la première fois qu'elle est venue au Festival d'Avignon, quelqu'un lui a dit de se taire parce qu'il faisait du bruit. Et c'est tout à fait naturel, c'est des petites frictions. Et je pense que ces petites frictions, ces petits manques de confort, parfois de quelqu'un qui est déjà là, mais qui est visité par ceux qui arrivent pour la première fois, c'est tout à fait normal. Et dans le Festival d'Avignon, il y a toujours un peu de bruit. C'est passionnant, c'est parce que le théâtre...
Ça ne vous inquiète pas outre mesure?
Pas du tout, parce que Chimamanda Ngozi Adichie, grande écrivaine nigérienne qui était aussi dans ce cloître un peu avant cette émission en parlant au public, elle a une formule que j'adore. Elle dit, il faut toujours continuer à se poser des questions. Et quand on se rend compte, quand on se rend compte que ces questions qu'on pose peuvent troubler un peu, mettre mal à l'aise nous-mêmes ou d'autres, il faut trouver la bonne façon de continuer à poser cette même question. Et ça, je trouve qu'il y a toujours des petites manques. Quand on change, tout changement implique des petites malaises. On essaie de les traiter avec humanité, politesse et éthique dans un contexte démocratique, cordial. Si c'est un contexte démocratique et sympa, les malaises sont OK. Par exemple, votre question un peu glaciale, elle m'a taquiné, elle m'a interpellé. Et en même temps, là, on peut discuter de votre façon glaciale de poser des questions.
C'était absolument pas voulu.
Et vous, Caroline, je voulais savoir, c'est quoi vos futurs projets et est-ce qu'il y aura bientôt de nouveaux podcasts?
On va travailler sur la saison 2 de Inside Kaboul, donc ça s'appellera Outside Kaboul, puisque les deux jeunes filles qui témoignent depuis bientôt 2 ans maintenant, ont finalement réussi à sortir d'Afghanistan. Ça a posé plein d'autres questions aussi pour la journaliste que je suis, de savoir si je devais intervenir et comment pour les aider dans ces démarches. Et finalement, on a réussi à, voilà, avec l'aide de Reporters sans frontières et d'autres associations, de les aider à quitter le territoire, puisque c'était ce qu'elles souhaitaient faire. Et là, elles sont arrivées en France. Et alors, en France, il y a plein de nouvelles questions qui se posent. On parlait tout à l'heure de welfare, des services publics. Elles ont été confrontées à plein de choses pas faciles. Et donc, je suis heureuse qu'on les connaisse maintenant un petit peu, puisqu'il y a eu la saison 1, et qu'on se sente encore plus à leur côté quand elles vont découvrir la France et qu'on ait l'impression de faire ce chemin avec elles.
On va tout de suite basculer un court instant sur La Bonne Pioche de Tanzila.
Salut, c'est Tanzila.
La Bonne Pioche.
Tu pioches un mot et tu m'expliques à quoi tu penses.
La Bonne Pioche.
Alors, on prend des petits mots dans des enveloppes. Moi, j'ai du spectacle.
Et du coup, qu'est-ce que ça vous évoque ?
J'aime bien cette idée de la première fois dont on parlait tout à l'heure. Je pense que c'est vrai que j'aime bien me balader dans Avignon et d'entendre, j'adore cet endroit, tous les gens qui commentent ce qu'ils ont vu au théâtre. Il y en a quand même beaucoup qui continuent à parler de leur première fois. J'entends souvent des gens, je leur demande souvent votre première pièce de théâtre, votre premier choc. Il y a une telle émotion quand ils racontent ça. Voilà, pour moi, c'est ça, ce mot-là, c'est... Je me réjouis pour vous de vivre ces moments-là et je me demande ce que vous allez raconter un jour aux plus jeunes de ces premières émotions. Ah, comment oui. Vous allez raconter welfare un jour
Moi, c'est faiblesse.
C'est le bon mot, quoi.
Il vous colle à la peau, tu ouais.
Voilà, merci. Merci. Je vais la coller à la peau, je la mets ici. Sur ma poitrine, c'est...
Ça colle bien, puisqu'on transpire.
Ouais, ouais. Ouais, je pense que faiblesse, ça m'évoque bien les connaître, nos faiblesses, parce que ça fait la force.
Merci beaucoup, Thiago Rodriguez. Merci beaucoup, Caroline Gillet. Merci Tandia. Merci Elia. Merci Noah. Et merci Mariama.
Bravo.
On passe maintenant au coup de fil à l'étranger. On va appeler un pays pour savoir du coup comment la vie se passe là-bas. Aujourd'hui, on part au Liban avec Dorian et Elia.
Alors, écrivain libanais du livre Octobre Liban, militant activement contre la corruption. Donc, bonjour Camille Amoun.
Bonjour.
J'ai donc une question pour vous. Est-ce que mettre la population dans la pauvreté ne serait pas un meilleur moyen de les contrôler ?
Ah, c'est une question compliquée, mais c'est une très bonne question. Est-ce que de mettre la population dans la pauvreté, c'est un moyen de la contrôler ? C'est possible, mais je ne pense pas que ce soit ce qui s'est passé au Liban. Au Liban, la classe politique libanaise a énormément de ressources, indépendamment de celles-ci, pour pouvoir contrôler la population à travers les tensions communautaire, le souvenir de la guerre civile, des ressources symboliques, des ressources financières, des ressources internationales, à travers leurs relations internationales. Donc, franchement, je ne pense pas que cet élément-là soit un élément qui a été utilisé par la classe politique libanaise pour contrôler la société et sa colère. C'est par contre la crise économique et financière que traverse le Liban et par contre une conséquence de la corruption de la classe politique libanaise et de son incompétence et de son incurie. Que ce soit une volonté claire de plonger la population dans la pauvreté, je doute. Voilà.
Bonsoir Camille. Alors moi, je voulais savoir, je me posais la question, souvent quand on parle du Liban, on parle du coup de division, de corruption. Mais est-ce que le Liban, c'est seulement un pays fragile ?
Le Liban est un pays fragile, certainement. Quand on voit tous les drames et toutes les catastrophes qu'il est en train de traverser et qu'il a traversé durant ces disons 40-50 dernières années. Par contre, le corollaire de cette fragilité, c'est aussi que le Liban est aujourd'hui encore là et qu'il encaisse les coups. Le pays encaisse les coups et la ville de Beyrouth et le Liban ne sont que l'ombre de ce qu'ils auraient pu être s'ils n'avaient pas subi ces catastrophes à répétition. J'appelle ça la sédimentation des drames. Beyrouth et le Liban ne sont que l'ombre de ce qu'ils auraient pu être, mais fragilité ou pas, ils sont encore là. Je sais que vous parlez de vulnérabilité cet événement. Est-ce que le Liban est vulnérable? La fragilité et la vulnérabilité, c'est pas pareil. Je crois que le Liban, oui, s'affaisse, le Liban encaisse les coups, le Liban ne se remet pas de tous ses coups, mais il est encore là et donc vulnérable, je ne sais pas, fragile peut-être, mais on peut être fragile et continuer à surmonter les obstacles.